Ce matin, j'ai reçu deux lettres, l'une de mon père et l'autre de Paul. Je recommence. Ce matin, j'ai reçu deux lettres, l'une de mon père et l'autre de Paul. Le premier, mon père, m'écrit.
Notre ville se prépare pour la fête. Je regrette que tu ne puisses y assister. Il n'y en aura pas eu de plus belle depuis des années et des années.
Je recommence.
Je ferai des sacrifices considérables qui consacreront ma richesse et ma gloire. J'espère que tu travailles ardemment et que tu te montreras digne de cette bourse honorifique que j'ai eu tant de mal à te faire obtenir. Heureusement que j'ai pu te décrocher cette distinction méritoire qui t'assure une situation brillante, respectable et inédite. Guide, interprète, breveté de la ville natale. N'est-ce point beau ? Quel avenir, fiston ? Quelle reconnaissance ne me dois-tu pas ? Sans moi, que serais-tu ? Pour moi, que ne dois-tu faire ? Rends-toi digne de mon grand nom. Travaille.
Le second, mon frère, Paul, m'écrit.
Merci pour le moyen de locomotion à deux roues que tu m'as envoyé. Je sais maintenant m'en servir et j'étonne les populations, ce que je ne désirais pas. Tout le monde dit que cette année, la fête dépasse en splendeur tout ce qui s'est vu jusqu'à présent. C'est embêtant que tu ne sois pas là, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Jean, notre frère, fait de curieuses découvertes. Il est sur une piste vraiment très drôle. Nous attendons d'être sûrs de nous pour t'informer de cette extraordinaire nouvelle. Le vélocipède me sert beaucoup.
Une découverte est une découverte. Une piste n'est pas une découverte. Recommence. Je vis vraiment en étranger dans cette ville étrangère, sans aucun contact avec sa population. Je ne connais guère que la logeuse, le professeur et le gardien. Je n'ai même pas avec les habitants ces rapports moyens et foultitudinaires qu'engendre l'utilisation des transports en commun, car je me déplace uniquement par le moyen de la birotation. Ma bicyclette me transporte de l'endroit où ma logeuse veille à l'endroit. Putain. Ma bicyclette me transporte de l'endroit où ma logeuse veille à l'endroit où mon professeur enseigne et de là, le plus souvent, à l'endroit où le gardien règne. Je roule à travers la ville étrangère, sans aucune relation avec la foule compacte qui se presse dans ces rues, sinon les injures que je ne comprends pas des conducteurs d'autobus et les admonestations des agents vigilants de la milice urbaine veillant à la régularité de la circulation. Les seules relations existantes sont celles que je me construis pour moi-même, par moi-même. Autrement dit, parmi les réels, j'en envoie point de féminine. La vie, je la regarde chez le homard. Alors c'est épouvantable. C'est épouvantable. Lui, le homard, s'en trouve bien. On le croirait du moins. Je viens d'écrire à mon père ce que je pensais de la vie des homards. Je sens bien qu'il n'a pas d'idée là-dessus, mon père, mais je tiens à le mettre au courant des progrès de ma pensée. Est-ce donc cela la vie? Ce silence, cette ombre, ces algues, cette espèce de férocité au bout des pinces, cette armure avide? Qu'on songe à la vie en pensant au homard dans l'obscurité. Et comment meurent-ils, ceux qui ne finissent pas ébouillantés dans les marmites ménagères? Décèdent-ils de vieillesse, les homards? S'en vont-ils tout doucement, ou bien combattent-ils la mort de leurs pinces durcies par l'arthritisme et sur lesquelles de petites annélides se sont incrustées? Soupçonne-t-il sa défonction, le homard? le homard, ne préférerait-il pas être une raie, par exemple, avec des yeux sur le bide et des ailes blanches? Ne préférerait-il pas pouvoir grimper aux arbres pour en dévorer les fruits, comme son collègue, le crabe des cocotiers? Cet animal véloce et dentelé.
De la terre, fier et libre, libre compagnon. Il en serait probablement ainsi. Supposons maintenant un homme et un homard, seul survivant de quelque catastrophe. Les flammes brouillent l'horizon, l'homme épuisé se dépouille de ses chaussures, déchiquetées et de ses chaussettes et fit locher. Il trempe ses pieds sanglants dans la mer pour y chercher quelque douceur. Le homard vient alors et lui brise le gros orteil. L'homme qui a perdu l'habitude de hurler se penche à la surface de l'eau et dit au homard, nous sommes les deux seuls êtres vivants sur cette terre dévastée, homard. Nous sommes les seuls vivants de l'univers. Nous sommes seuls à lutter contre l'universel désastre. Veux-tu faire alliance, homard? Veux-tu faire alliance? Mais l'animal dédaigneux lui tourne la carapace et se dirige vers d'autres océans. Car sait-on à quoi songe un homard? Et que peut-on penser de son incompréhensible existence? L'image du homard, inflexible et imperturbable, transperce le ciel des humains de ses pinces inintelligibles. Par-dessus les toits brumeux de ma fenêtre ouverte, je crois voir se dresser soudain ces deux pattes menaçantes, ouvrant et refermant leurs tenailles gigantesques pour sectionner les constellations.